Midi au mitard, l'émission qui donne de la voix pour que la prison ne soit plus une zone passée sous silence. Tous les premiers dimanches du mois, à partir de midi, sur Prune 92 FM et en podcast sur le www.prune.net. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle de Midi au mitard, l'émission qui décloisonne l'actualité carcérale sur Prune 92 FM. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, on se permet la question qui fâche, un monde sans prison est-il possible? Avec moi pour tenter d'y répondre, Manon, Mathieu, Clémentine et Adèle vous ont concocté des chroniques, se sont engouffrés dans des bouquins et sont allés dans la rue afin d'ouvrir le champ des possibles. Bonjour tout le monde.
Salut.
Salut.
Que penser des alternatives à l'enfermement? Existe-t-il des peines plus humaines? Qu'est-ce qui peut bien nous attendre dans une société sans incarcération? Dans cette émission, vous pourrez écouter le témoignage de Lucie, placée sous surveillance électronique depuis le 5 janvier. Un monde sans prison est-il seulement imaginable? Et si oui, cela veut-il dire sans punition? On verra ce qu'en pense la sociologue et militante anticarcérale Gwenola Ricordo. Et avec moi autour de la table, Manon, tu es avec nous ce midi pour aborder la question sous l'angle littéraire, puisque tu t'es plongée dans les écrits de l'incontournable Angela Davis.
Ouais, je vais vous parler d'un essai écrit il y a presque 20 ans par Angela Davis, militante des droits humains qui a réchappé à la peine capitale dans les années 70. Dans son texte « La prison est-elle obsolète ?», elle déconstruit le système carcéral américain et nous explique sa position abolitionniste.
Et pour stimuler notre imaginaire, on va parler architecture et science-fiction avec toi Mathieu. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Alors, ce mois-ci, je vais vous parler d'une architecte américaine, Diana Van Buren, qui essaie de reconcevoir le concept de prison. Et aussi, je vais vous parler un peu d'un livre de Charles Strauss, Glass House, qui décrit un futur où la prison n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et micro en main, nous avons également ouvert le débat auprès des Nantaises et des Nantais qui auront bien voulu jouer le jeu du micro-trottoir, n'est-ce pas Adèle?
Ouais, on est allé dans la rue avec Laurie pour discuter, poser des questions, recueillir des réflexions. On va vous présenter les réponses des Nantais et Nantaises qu'on a croisées.
Voilà, on écoutera ça tout à l'heure. Chères auditrices et auditeurs, vous avez le programme de cette émission placé sous le thème « Un monde sans prison est-il possible ?» Et on commence comme d'habitude avec la chronique Culture Tall de Clémentine.
Bonjour l'équipe et les auditrices et auditeurs heureuses et heureuses de Midi au mitard. Dans cette émission sur un monde sans prison, je voulais revenir avec la chronique Culture Tall sur les différents mouvements de lutte qui existent autour de la prison. Ces différents mouvements s'articulent autour de personnes qui pensent cette lutte, qui y réfléchissent, qui agissent en son sein. Ici, je ne fais pas de différence entre des universitaires ou des activistes anticarcéraux, les uns se nourrissent des autres et les universitaires ne pourraient pas exister sans les révolutions ou les courts-circuitages du système carcéral qu'organisent les personnes détenues ou les militantes et militants. Quand je dis à quelqu'un que je suis contre les prisons et que j'en discute avec des personnes qui ont été éduquées avec l'idée que la prison est une évidence, la première réponse que ces personnes me font c'est « oui, mais par quoi tu la remplaces ?» Et quand je leur réponds par « rien du tout », je crois que j'ai toujours constaté que les personnes écarquillaient bien grand leurs yeux, comme si cette perspective de faire disparaître une telle institution était bien trop révolutionnaire, bien trop effrayante pour être même imaginée. Alors parfois, le plus facile pour déconstruire la prison, c'est d'adopter d'autres militantismes qui sont plus parlants, plus vulgarisables. Donc je vais partir du plus nuancé pour arriver jusqu'au plus radical. Alors d'abord, le réformisme. Le réformisme consiste assez basiquement à considérer la prison telle qu'elle est et à tenter d'améliorer les conditions d'incarcération que subissent les personnes détenues et à exiger le respect des droits fondamentaux et à s'appliquer à veiller à ce respect et à exiger toujours plus de droits pour les personnes concernées, notamment en créant des plaidoyers auprès du gouvernement pour de meilleures réformes, en utilisant la justice pour réclamer le respect des droits fondamentaux, en utilisant les médias pour dénoncer leur non-respect, en sensibilisant la société civile pour qu'elle-même soit agissante dans cette perspective réformiste. Bon, en gros, c'est ça le réformisme, et c'est facile à comprendre, c'est très vulgarisable, c'est même très constructif. Pourquoi ce moyen d'agir autour des prisons me dérange personnellement? Pour moi, la prison fait violence en tant que telle. Encore il y a un mois, une décision de justice était obtenue par une copine avocate qui condamnait l'État français puisqu'une personne détenue était forcée de vivre dans sa cellule avec des rats et des cafards, et aussi sans chauffage. Ok, l'État va devoir faire en sorte que le monsieur dans sa cellule ne vive plus avec des cafards et des rats et qu'il ait du chauffage. Mais le problème, quand la cellule sera propre et chauffée, c'est que le monsieur sera toujours enfermé dans cette cellule et ce fait lui-même induit que d'autres violations de ses droits minimaux vont être à nouveau perpétrées. Le problème aussi, c'est que la prison est un système d'enfermement de gestion de masse. Donc partir du particulier pour obtenir des droits ne fait pas obtenir des droits pour tous, mais accorde au compte-gouttes des améliorations à un système total qui est lui-même basé sur la violation des droits fondamentaux, puisque la première violation, c'est évidemment celle de la liberté d'aller et venir. Donc, s'agissant des conditions de vie à améliorer dans les prisons, je voudrais vous faire part de cette fameuse phrase issue d'un débat passionnant avec des collègues. Une fois qu'on aura obtenu que les prisons soient propres, est-ce que pour autant ça rendra leur existence acceptable? Donc selon moi, non. Il est temps que je vous parle du deuxième militantisme autour des prisons. Je vous parlais de gestion de masse des personnes incarcérées, et ce que je veux dire en parlant de masse, c'est qu'il faut comprendre qu'en France, on suit une politique pénale qui a pour modèle la politique en matière de répression des États-Unis. On n'est pas à leur niveau, mais il y a beaucoup de similarités dans la logique d'enfermement entre les deux États. Typiquement, aux États-Unis, c'est une personne sur 100 qui est mise sous écrou, que ce soit à travers une incarcération ou un bracelet électronique ou autre peine pénale, en tout cas, une personne sur 100 est sous main de justice. En France, c'est une personne sur 1000 qui est dans ce cas, et c'est déjà effroyable. Alors, le réductionnisme, c'est un mouvement autour de la prison qui s'attache à réclamer politiquement qu'on réduise le nombre de prisons, qu'on arrête d'en construire et qu'on baisse le nombre de personnes détenues. C'est une grande tendance dans les luttes autour des prisons que de considérer que le modèle qui nous vient du nord de l'Europe et qui est dans cette ligne de réduction est une bonne voie. Si on entendait le réductionnisme dans une visée abolitionniste, donc entendu comme une première étape vers la destruction des prisons, personnellement, ça me paraîtrait pertinent. Mais en fait, ce moyen de militer consiste malheureusement toujours à considérer la prison comme une évidence et ne pas remettre en cause le principe même de son existence. Par exemple, les Pays-Bas, qui sont cette ligne réductionniste, se permettent de louer leurs prisons vides à la Belgique faisant ainsi des économies en évitant de construire de nouvelles prisons, mais ce moyen de squatter les prisons du pays voisin participant toujours plus à une logique d'incarcération de masse sur fond de capitalisme d'État, les Pays-Bas étant bien contents de profiter de cette manne d'argent sur le dos des personnes concernées, les personnes détenues et leurs proches. Donc après le réductionnisme, on en vient au dernier mouvement de lutte qui fait l'objet de cette émission, l'abolitionnisme. Il y en a plusieurs des différents, qui sont d'ailleurs pas excluants les uns des autres. Un abolitionnisme pur et simple des prisons et de toutes les formes d'enfermement, jusqu'à un abolitionnisme du code pénal, un abolitionnisme qui s'accompagnerait d'une justice restauratrice, un abolitionnisme anticapitaliste, un abolitionnisme anarchiste qui s'accompagnerait de la destruction des États-nations, etc., etc. Vous aurez compris qu'à travers ma chronique, c'est ce mouvement que je privilégie personnellement, un gros feu aux prisons, une fois qu'elles ressembleront à des grands bâtiments vides dont on se rappellerait qu'un jour on aura enfermé des gens à l'intérieur, et même qu'on aurait un devoir de mémoire envers cette période concentrationnaire. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'entretien entre deux chercheurs canadiens qui parlent de ce sujet. Le premier chercheur, Gilles Chantraine, demande à l'autre « Dans quelles conditions politiques et sociales l'abolition des prisons vous semble-t-elle possible ? Après une révolution ? Le renversement du capitalisme ?» Et le gars, l'autre universitaire, qui s'appelle Justin Pichet, lui répond. Ce sera l'heure de l'abolition lorsque l'inégalité et l'injustice seront éprouvées en masse. Ce sera l'heure de l'abolition lorsque les réponses étatiques aux préjudices criminalisés ne produiront que davantage de préjudices encore. En d'autres mots, l'heure de l'abolition, c'est maintenant. Et selon moi, c'est seulement une question de temps avant que nous ne connaissions des changements significatifs parce que les arrangements que les États ont passés avec les citoyens partout dans le monde sont mauvais et que de nouveaux arrangements sont nécessaires si les États sont amenés à exister encore dans les décennies à venir. À mes yeux, l'abolition de l'emprisonnement exige également l'abolition du système pénal, qui elle-même exige l'abolition d'autres appareils coercitifs de l'État, y compris la surveillance de masse, laquelle entraînerait une restructuration radicale des fondements socio-économiques et politiques du monde. Sur ces bonnes paroles, et pour répondre à la question « par quoi remplacer la prison ?», eh bien je dirais que je vous invite toutes et tous à y réfléchir avec nous, avec Midiomintar, mais aussi avec les personnes concernées par l'exclusion sociale qui finissent presque toujours par être réprimées par le monde prison-justice. Je vous inviterai bien à être réformiste, mais je trouve qu'il n'y a plus le temps. C'est presque un début déjà d'être réformiste, mais je vous dirai aussi que ça fait depuis 200 ans, il y a 200 ans c'est seulement le début de l'existence des prisons, ça fait 200 ans qu'on parle de rats et de cafards, et que ce n'est pas en rendant les prisons propres qu'on les rendra plus acceptables.
C'était Clémentine et sa chronique Culture Tôle. Merci à toi qui nous écoutes de Dunkerque, et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle réflexion culturelle sur le thème de la zonzon. Vous êtes bien dans Midi au Mitard, sur Prune, et ce midi, on se demande si un monde sans prison est possible. Avec Adèle, nous sommes allés sillonner les rues de Nantes pour tendre notre micro à qui le voulait bien.
La prison serait nécessaire pour enfermer les gens dangereux, la prison serait efficace mais à certaines conditions, punir pourrait prendre d'autres formes que l'enfermement. C'est parti pour un micro-trottoir sur la prison, ou plutôt sur un éventuel monde sans prison.
Et pour vous, est-ce qu'un monde sans prison est possible ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Pour moi, oui, un monde sans prison est carrément possible. Parce qu'il y a à la fois ce côté répressif là, de faire payer et de punir qui peut être vite insupportable, puisque de toute façon, après... La prison ne permet pas de revenir dans le monde de la société et puis de se remettre au travail et tout ça. C'est plutôt un contre-modèle. Et après, tous ceux qui ont fait des homicides ou des choses un peu plus du côté un peu plus psy, il y a le côté soin. Donc on ferait plutôt soit soigner, soit prendre soin des personnes qui tombent malheureusement en prison que de les incarcérer et puis de les priver de liberté. Je pense que dans notre société, il manque ça, prendre soin des gens et les soigner. C'est vraiment les deux pans qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire chez nous en France.
Je pense que oui, mais à certaines conditions. Éducative, préventive, essentiellement ça, oui.
Moi ça m'a beaucoup posé question récemment parce que j'ai vu une émission d'un mec qui s'est fait incarcérer pendant 12 ans en Angleterre. Il n'était pas coupable et du coup il a réussi à se faire gracier, c'est ça, ouais. Ils ont trouvé le vrai coupable, il a été sorti de prison et il a fait une émission où il allait dans plein de prisons dans des pays différents pour voir comment se passait le monde carcéral dans le monde entier. Et il allait notamment dans une prison en Norvège où justement ils mettent en place un processus de normalisation et ils font en sorte qu'il y ait un supermarché, ils ont leurs appartements dedans. Et lui, il venait de prison en Bolivie où il allait voir là-bas où c'était la war clairement dans la prison. Et il s'est dit, mais ça pose tellement de questions aussi pour les victimes. Genre, qu'est-ce que ça prend en compte ? Comment on réintègre les gens dans la société et c'est des processus juste de normalisation où on essaie de mettre une bulle un peu de positive aussi autour de ça et pas les prendre comme des monstres. Et il y a une nana qui est gardienne qui disait si on prend les gens comme des animaux, ils vont devenir des animaux et si on les prend comme des humains, ce sera des humains. Et du coup, c'était trop intéressant.
Moi, je dis un monde sans prison, c'est fini, c'est la fin du monde.
Pourquoi ?
Mais parce que il y a des gens, il y a des choses, il y a... Qui ne se font pas dans ce monde. Si on ne respecte pas la hiérarchie de la vie, eh ben, je pense que les sanctions, si elles ne sont pas exécutées, eh ben, on ne prendra pas conscience et puis on fera toujours ce qu'on voudra.
Étant donné que la peine de mort est abolie, ce que je valide bien sûr, je ne vois pas comment, quelle autre sanction valable on pourrait trouver pour empêcher que ces personnes soient récidivistes et refassent leur crime. Et je vois pas comment on pourrait vivre dans un monde en sécurité s'il n'y avait pas de prison.
Bah moi je rejoins un peu son idée parce que je pense que s'il n'y a pas de prison, il y a quand même des gens, je veux pas dire enfermés, mais des gens un peu dangereux, par exemple des gens qui ont la folle envie de tuer les autres, les laisser en liberté, je pense pas que c'est une très bonne idée. Donc je pense pas qu'un monde sans prison... soit possible, parce que bah, je vois pas non plus quelle autre sanction on pourrait trouver pour essayer d'empêcher ces gens-là de recommencer ce qu'ils ont fait, quoi.
Est-ce que vous connaissez le taux de récidive qui existe en France ? C'est un taux auquel on peut avoir accès. Le taux s'élève à peu près 65-70% de récidive, donc ça questionne quand même l'efficacité de la prison. Est-ce que à écouter ce chiffre, ça vous pose pas question ?
Bah, c'est quand même assez conséquent. Enfin, je pensais pas qu'il y avait... autant de personnes, mais c'est peut-être après une question à se poser sur les peines qui sont données selon les crimes. Donc il y a peut-être des peines, je veux pas dire qui sont peut-être assez grosses, ou on sait pas, mais c'est peut-être dire qu'il y a un souci derrière. Donc peut-être que la prison n'est pas assez efficace, parce que s'il y a autant de récidivistes, c'est pas que c'est pas très bien, quoi.
Seriez sensible à des alternatives à la prison, par exemple ? Vous en connaissez, d'ailleurs ?
Oui, ouais, j'en connais. Bah, j'ai déjà travaillé un petit peu. Des alternatives, ouais, je pense. Parce que je pense que par rapport à des situations, c'est pas la solution à tout, quoi. Que pour la réinsertion, justement, puis les récidives et puis les rencontres aussi faites en prison, et ce qui peut être quelquefois préjudiciable pour certains, et justement, la prison, quelquefois, les ramène à plus de choses que s'ils avaient été autre part, plus encadrés, mais il faudrait une autre politique sociale déjà. C'est ça le problème.
Il y a le bracelet électronique qu'on peut poser au poignet ou à la cheville. Sinon, j'en connais pas d'autres.
Moi, je sais pas si c'en est une, mais les gens qui ont fait des crimes et qui ont un peu des problèmes psychologiques, qui sont emmenés plus en hôpital psychiatrique, qui sont surveillés, mais du coup, c'est pas de la prison. C'est peut-être, je sais pas si c'est une peine, je sais pas si c'est compté comme une peine ou pas, mais ça reste quand même une solution, parce que je pense que pour certaines personnes, il y a besoin de ce genre de choses pour les remettre un peu bien dans leur tête, parce qu'il y a des gens, s'ils font ça, c'est qu'ils sont fous, c'est pas des gens, des fois, qui ont envie de faire des crimes, c'est des gens qui sont fous de base et qui se contrôlent pas. Donc je sais pas si c'est une peine ou pas. Mais c'est tout ce que je connais avec le bracelet électronique aussi, mais sinon...
On va essayer d'être un peu plus général, parce que là, pour donner quelques chiffres, en prison... Plus de 80% des gens qui sont en prison sont dans un état de précarité très, très avancé quand même.
Donc, je ne sais pas si vous êtes si vous avez déjà entendu parler de la justice transformative. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une justice punitive. Dans le concept de justice transformatif, ça part du principe que l'individu n'est pas entièrement responsable, peut ne pas être entièrement responsable de ce qu'il a fait, et que c'est la société qui l'a conduit à faire ce qu'il a fait. On peut se demander en fait en quoi la société qui a engrangé de grandes inégalités sociales a pu pousser des gens justement à commettre des actes comme ça. Donc est-ce que ça vous parle ça déjà ou pas du tout?
En fait, la question est très complexe parce qu'un individu, c'est à la fois quelqu'un qui a été éduqué, qui a une famille, donc et puis quel réseau il a, enfin toutes ces choses-là. Donc on n'est pas foncièrement responsable puisque de toute façon on est des êtres sociaux et l'extérieur influe sur nous de toute façon, que ce soit la famille, que ce soit le réseau amical ou que ce soit le milieu où tu vis. Mais quelle part de responsabilité? C'est une sacrée question.
il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Ça reste une prison, bien évidemment, mais les personnes sont plutôt en liberté, sont sur une île, isolées. Ils sont dans une configuration qui est vraiment empreinte de liberté. En fait, dans les pays nordiques, on a vu cette expérience-là, et elle fonctionne. Les cas de récidive sont moindres, et donc voilà. Quoi. Donc ça, oui, on peut le faire, on peut le faire.
Une prison peut-être, mais certainement pas comme elle se présente aujourd'hui en France. Comme on le dit dans ce micro-trottoir, avec un taux de récidive avoisinant les 70%, la prison, ça ne marche pas. Et avec 80% des détenus en situation de précarité, il y a de quoi se poser des questions. Enfin, ça ne marche pas si le but est de faire une société plus calme, avec un plus grand respect des règles. Punir et invisibiliser, ça, on sait faire. Mais l'individu serait-il vraiment le seul responsable?
Merci beaucoup Adèle pour ce micro-trottoir. Le milieu ouvert fait partie des alternatives les plus prisées pour remplacer les peines de prison. Que penser de ces alternatives? Un monde sans prison est-il un monde sans peine? Avant de répondre à ces questions, je vous propose de vous mettre un petit son du choix de Manon.
On va écouter Singe des Rues, c'est un groupe de rap français, surtout actif entre 2005 et 2015, qui a beaucoup parlé de la prison, avec une philosophie qui est crève la tôle. Ce sont de vrais lyricistes qui rappent avec un style d'une grande noirceur, parfois violent. On écoute tout de suite leur titre, APE.
Cicatrice au plexus, blessure anti-matrice. Quand je maîtrise plus, me rappelle qui je suis. Un putain de macactrice. Elle s'en cache, sale regard. Résiste à la cam qu'on lui enjaille. Putain de chimie camisole. Focus les caches en bloc, les caresses du gardien. Tends-moi la main, je te mords. Et rien à foutre qu'on m'isole. Animaux pas dociles, pavé de cierre. Comme au service des humains. Boulot aussi en deux, des poussons morts plein dedans. Derrière les barres au vent rouge, on supporte pas des dents. Étincelle au fond de l'œil, ça qui les dérange. Ils veulent l'éteindre, nous fout dans un carré, nous fout dans un linceul. Saper la tête dans le mur, à se rendre avant d'être seul. Balancer à la poutre, penser à le faire au bout d'une ficelle. Plus de faille, pas d'issue sans la poutre. Suicide, homicide, dans les demi-heures, à trop marre, plus rien à foutre. Combat sur la ville. Tellement je parle peu, on me prend muet, à force pas vivre. On ne sait qu'à pris la mode, je n'ai à part que les tuer.
Sur l'air crispé, ouais, cumo lèvres aux pupilles, larmes de sang. Pourquoi les ténèbres m'attirent? Trop de masques sous la lumière pour que leur vernis craquelle. Mes fissures sont leur mascara. En vrai, toujours à l'aveugle, tentative avortée. Dispersion des forces, mais toujours la chair, une plaie sous les corses. On dit le pire avenir, mes camisoles pour les cauchemars. Protectrice pour dormir. Alors, Babi, retroussez les yeux ouverts. La terre fémorale comme cible. Un putain de singe pour un miroir. Près la sonde, fous des blessures, mais souvent se trompe. Agressivité pulsionne, elle gonfle et me comprime. Les poumons dans un écho et tic-tac dans le crâne. Accepte leur combine et vit les moutons sur du troupeau. Au bout du chemin, l'abattoir à part, c'est rien à craindre. Je te le rappelle, déjà mort, alors rien à perdre. Refuse qu'on m'impose et pas de prière.
Sache tes rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond.
Bah ouais, on a grandi en cage.
Dédicace à ceux qui ont la rage, crèvent en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Sache tes rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond.
Bah ouais, on a grandi en cage.
Dédicace à ceux qui ont la rage, crèvent en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Mais que le pouvoir s'est juge.
À
aliénation, piteux état, erreur dans l'évolution, sortie du destin tracé, très tard, en droit de ça, crasseux. Transport sur la France, du côté de ceux qu'elle écrase, du côté de ceux qu'elle écroue. Ce qui m'effraie par la thermie ou commentaire dans un trou, c'est laisser faire au blanc de parmi. On va s'armer comme les panthères contre les pans, les vautours du monsieur, puis les bastos, pour un d'acier pour un long retour. 25 quart d'heure pour les bâtards, une seule équipe sans étendard, évidemment sans état d'âme, mais déjà fou, pas par hasard. Attaque plutôt qu'esquive, t'es des sales types, en tout cas pas citoyen. Je serai pas mon propre flic, t'es des sales flics, on baisse le broc et l'avocat, sorti du zone, on y retourne pas. Et puis, trop d'ennemis, pour s'en sortir ici, t'as patience et de la rage. Confiance en tes straps, c'est un temps solo, je t'apprends rien. Rat 9 dans nos putains de vie. La vie te sépare, la prison c'est pas haut. Les compromis, les efforts, j'ai pas les tarots, tu finiras sur le chaos. En taille au couteau sur le corps. T'auras ce que tu prends, des fuites, des victoires. Car l'espoir pour un autre jour, et c'est rien de beau sans mensonge. Enfermement des corps, des cerveaux. Trop drôle à venir, être autant volé pour deux, trois instants de vie. Animal instinct de survie, cicatrice invisible. N'a qu'un corps garçon, qu'un coup de piqûre en fait terre. L'homme sur le pays va s'étendre notre revue. Pas besoin de prévenir sur les caches frémières sous nos coups. Révolte en provenance du sol, le riz embrasse les prisons. Paniqué les matons, les blouses blanches. C'est l'heure de la revanche. Un logement au libre, un potentiel carlate, c'est furieux se battre. Radical scène du crépuscule, orage de sol, on me bascule. Les acteurs et qui m'enlèvent. Je vois bousculer dans l'univers. Dans nos vies comme sur nos cendres, c'est dans nos veines comme un venin, dans celle de ceux qui nous ressemblent. Sache tes rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond.
Bah ouais, on a grandi en cage.
Médicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Sache tes rues que le système a rendu dingue. Avec des faces qui tournent en rond.
Bah ouais, on a grandi en cage.
Médicace à ceux qui ont la rage, crève en cellule. Bientôt c'est nous et la ville rouge. Sache tes rues.
Midi au mitard sur Prune 92 FM.
Des prisons et des hommes.
C'était APE de Singe de rue dans Midi au mitard. Nous en parlions avant ce morceau. Il existe des peines alternatives à la prison et parmi elles, le placement en milieu ouvert fait beaucoup débat aujourd'hui. Les cas de récidive sont moindres en milieu ouvert, c'est vrai, puisque l'on constate un taux de recondamnation bien inférieur à celui constaté en milieu fermé. La peine effectuée en milieu ouvert, dont l'appellation ferait presque envie, n'est pourtant pas moins synonyme de contrainte. Son développement croissant s'inscrit dans un contexte de surpopulation carcérale, dont les conditions de détention frisant souvent l'indécence sont de plus en plus connues et décriées par la population en général. Une peine en milieu ouvert s'effectue souvent en substitution d'une courte peine, c'est-à-dire inférieure à 2 ans, mais aussi dans le cadre d'aménagement de peine, et parmi elles, on connaît la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement en extérieur ou encore le bracelet électronique. Elles sont censées faire de pair avec un accompagnement et un suivi, mais surtout de contrôle. Quel lien avec le thème de l'émission, me demanderez-vous ? Eh bien justement, si un monde sans prison pourrait bel et bien voir le jour, il ne ressemblerait peut-être pas à un monde sans peine, comme les abolitionnistes voudraient bien le concevoir. Dans ce contexte, plusieurs questions se posent. Existe-t-il des peines plus humaines que d'autres finalement ? Que penser des peines alternatives à la prison ? Peu après la publication de « Surveiller et punir », Michel Foucault, et oui, encore et toujours lui, avançait l'idée que les sanctions alternatives, loin de rompre avec l'emprisonnement, reviennent bien souvent à étendre les murs de la prison à toute la société. En effet, le progressisme pénal semble aller de pair avec le développement des techniques de surveillance. Comment évolue ce contrôle social et est-il amené à s'étendre dans toutes les strates de la société ? Parmi ces alternatives à l'emprisonnement, on observe une augmentation de l'utilisation du bracelet électronique. Mis en pratique depuis la fin des années 90 en France, ce dispositif permettrait de désengorger les prisons et maintenir une surveillance accrue sur celui ou celle qui le porte, et ce jusqu'au domicile où la personne est assignée. Aujourd'hui, on constate que loin de contribuer à vider les centres pénitentiaires, il permet surtout d'étendre un certain contrôle social à moindre coût à une partie de la population. Pour vous faire une idée, une journée sous bracelet, ça équivaut à 10 euros contre une centaine pour une journée d'incarcération. Lucie, dont le vrai nom a été changé dans le cadre de cet entretien, a 37 ans et vit dans la campagne de la région briochine dans le 22 avec ses deux enfants. Depuis le 5 janvier, elle fait partie des quelques 11 200 personnes vivant sous bracelet électronique. Lucie a un passé judiciaire puisqu'elle a déjà été incarcérée 3 mois et a déjà été placée sous bracelet quelques années auparavant. Il convient de rappeler que le placement sous bracelet est une peine de prison. Lucie est partie pour 8 mois, assignée à résidence. Elle témoigne de son expérience.
Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une journée ou une semaine avec le bracelet électronique ? Ça ressemble à quoi le quotidien de quelqu'un qui a le bracelet ?
Sous le bracelet électronique, on n'est pas tous sur la même enseigne. Moi, j'ai la chance la semaine d'avoir des horaires ouverts parce que j'ai des enfants, c'est-à-dire de 8h à 18h. Par contre, le week-end, j'ai le droit de sortir de chez moi que de 14h à 17h. Donc la semaine, voilà, on va dire que ça peut être une vie normale, même si pour l'instant je suis en recherche d'emploi et que j'en ai pas, je pourrais aller travailler tout ça. Par contre, le week-end, c'est une pression pour les enfants, pour moi, parce qu'on n'a que 6 heures de sortie sur 48 heures. Donc, faut jouer sur tout, les courses, le temps, sur les activités. C'est compliqué.
Tu me racontais en off que tu avais, donc c'est la deuxième fois que tu as le bracelet électronique et tu me disais que c'était, que ça avait empiré pour toi, que les contraintes avaient empiré.
La première fois où j'ai eu le bracelet, j'ai eu du lundi au dimanche, 8h, 20h. Et surtout, j'avais accès à mon jardin dans le périmètre de non-sortie. Qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire la semaine, quand je peux pas sortir, et le week-end, qui est beaucoup plus important et beaucoup plus dur, je n'ai pas accès à mon jardin. J'ai le droit juste à 5 mètres carrés dans mon jardin où je peux sortir. Donc, ça veut dire pas d'activité pour les enfants. On peut rien faire dans le jardin. Ça, c'est vraiment, je pense, ça a été en plus la goutte d'eau à cette deuxième mise en pause de bracelet. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois qu'on t'a parlé du bracelet électronique à la place de la prison ?
La première fois, parce qu'en plus, j'étais encore dans mes conneries. J'ai pris cette peine, mais j'étais toujours, même si voilà, j'avais pris une peine, qu'il y avait un suivi, je faisais toujours mes conneries. Donc au final, c'était quelque chose qui me bloquait et je l'ai mal pris en me disant « Ouais, merde, je préfère être en prison, tant pis si je perds tout. » Qu'aujourd'hui, je le prends beaucoup plus mal parce que j'ai avancé, j'ai tout arrêté. J'ai fait v'là les preuves, j'ai v'là les rapports, que ce soit d'éduc ou anciennement SPIP, sauf celle d'aujourd'hui, mais anciennement SPIP qui ont été que dans le positif. Et je me retrouve 3 ans après à être coupée du monde pour 8 mois. Pour 8 mois, quoi. C'est pas 2-3 mois, c'est 8 mois. On est surtout week-end. Je crois que c'est surtout week-end, parce que sur la semaine, je peux pas me plaindre. Il y en a qui ont 9h, 13h. Moi, j'ai quand même 8h, 18h. Mais c'est sur le week-end où on est dès 14h moins 5 à se dire, bon, allez, on va faire un tour vite fait. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc, c'est tout est compressé pendant 6h pendant le week-end. Ouais. Je préfère être dehors qu'avec mes enfants qu'en prison. Par contre, il fut un temps où, au final, je me disais, ouais, j'aurais préféré être incarcérée. On prend la peine direct dans la figure. Et c'est soit après, on sort de prison et soit on décide de se réinsérer ou pas. Mais quand on n'est pas dedans, au final, le bracelet, c'est encore pire.
Pourquoi ?
Ça nous fait pas réagir quand on a décidé, même si on ayant pris la peine, si on n'a pas décidé d'avancer, le bracelet, ça changera rien. C'est juste qu'on rumine encore plus que l'incarcération. C'est soit on se dit, allez, hop, ça y est, je prends cette peine, je sors et je me remets bien, ou je continue mes conneries. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, sur cette dernière peine, parce que, voilà, c'est mes dernières conneries, j'espère, voilà, pour l'instant, j'ai changé, ça fait, là, je suis en train de prendre 2 peines sur des faits de 2018. Donc, aujourd'hui, où j'ai failli perdre mes enfants, qu'ils ont failli placer, et que j'ai vachement changé, oui, bien sûr, je préfère l'alternative du bracelet à l'incarcération, ça, c'est sûr. Je voudrais juste pointer, parce qu'on a eu juste avant vraiment l'interview, justement on parlait un peu de tout ce qui est l'État. Et on a quand même, je pense, même s'il y en a qui approuveront pas, un ministre de la Justice qui est un bon avocat, qui a défendu, bon, surtout les gens qui ont de l'argent, mais c'est un bon avocat qui est aujourd'hui ministre de la Justice, et qu'aujourd'hui est quand même sur le fait de taper que quand on fait une bêtise, il serait bien qu'on soit dans la démarche d'être puni tout de suite. Et justement, je pense que peut-être ça ferait On pourrait peut-être sauver plus de délinquants. De toute façon, malheureusement, on ne sauvera jamais 100% de la délinquance. Après, les lois sont peut-être mal faites. On accepte peut-être plus d'autres choses que d'autres choses. Voilà, après, on pourrait parler de ça pendant des heures. Mais je pense que vraiment, le ministre de la Justice aujourd'hui pointe qu'il faut une condamnation tout de suite. Et peut-être qu'on serait moins dans les regrets. Parce que moi, je vois aujourd'hui, même si je m'en sors et que je vais continuer pour mes enfants, aujourd'hui, je n'aurais pas mes enfants. Je prendrais une peine 3 ans après. Je repartirais dans mes conneries parce que j'aurais une haine qui serait pas justifiable envers mes enfants. Là, je suis obligée de me contrôler pour mes enfants parce que je veux rester avec eux. Je veux pas les perdre. Je veux pas qu'ils soient placés. Mais c'est sûr que j'aurais pris... Voilà, je trouve que c'est dommage qu'on soit puni trop tard.
Ouais, donc, en d'autres mots, pour être sûr que moi, ouais, j'ai voilà, bien compris, c'est le délai de latence entre le fait d'avoir pas été arrêté, mais qu'on ait constaté, du coup, les faits et la prononciation de peine. Il y a trop de temps entre ces deux-là. Et quand on t'a placé sous main de justice et qu'on t'a écouté, est-ce que tu as le sentiment qu'on a fait l'effort de bien prendre en compte le contexte social, ton contexte économique, ton passé, ta psychologie? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir que dans le jugement de ta peine, on a vraiment bien pris en compte tout ce qu'il y avait derrière, quoi, et tout le contexte?
Non, pas du tout, parce que ça aurait pu, en fait, tout aurait pu être pris en compte, mes démarches, mon avancement, ma réinsertion personnelle et éducative. Mais le problème, à chaque fois, ce qui revient, ce qu'on me laisse pas ma chance au final, c'est parce que j'ai trop de condamnations. Et au final, je me dis, des fois, des gens avec peu de condamnations qui ramènent juste des obligations professionnelles ou de soins ou les obligations qu'ils ont par la justice, mais qui continuent leur connerie, eh ben on va quand même plus leur laisser leur chance parce qu'ils sont moins condamnés. Et dès qu'à un moment donné, on revient trop dans leurs locaux judiciaires, eh ben on n'a pas le droit à cette énième chance, en fait, qu'on pourrait rebondir et avancer.
Et est-ce que tu bénéficies d'un accompagnement suffisant pour t'aider à t'en sortir dans le quotidien, même psychologiquement? Est-ce que tu as un soutien?
Alors, j'ai un soutien parce que j'ai un suivi éducatif qui a été compliqué à mettre en place, où la confiance a été compliquée à instaurer. Aujourd'hui, j'ai une super éducatrice spécialisée et une super assistante sociale. Par contre, je sais que sur le soutien SPIP, il est zéro. Parce que eux, ce qu'ils veulent juste, c'est une obligation de travail et une obligation de soins. C'est juste des papiers signés. Ils prennent pas le temps, ils sont en train de... Même si on fait des efforts, ils sont tout en train de nous démonter, nous prendre au qui-vive, à nous mettre une pression. Ouais, mais attention, si t'es pas là, à ce rendez-vous-là, on appelle le JAP. Si tu me fournis pas quelque chose, on appelle le JAP. Donc, c'est une pression au quotidien. Il y a peu de... J'en ai, allez, on va dire, sur mes 15 ans de judiciaire, j'ai dû être suivi par 10 PIP. J'en ai eu 2. C'était, vraiment, elles étaient là pour qu'on se réinsère. Les autres, c'est juste pour remplir leur dossier, avoir leur papier de justificatif et voilà, il n'y a rien derrière.
Parce que quand on a le bracelet électronique, l'une des conditions, c'est d'avoir un projet de réinsertion, donc une formation ou un travail. Et comment est-ce que tu aurais aimé, disons-le autrement, comment est-ce que tu aimerais être accompagné si tu pouvais faire la demande là tout de suite? De quoi tu as besoin concrètement pour avancer?
De nous laisser le temps, en fait, de pas nous mettre une pression, justement, à même mettre un projet professionnel, nous laisser le temps de mettre en route. Moi, je préfère, pour l'instant, en fait, je suis sur le sevrage, sur l'apprentissage à se remettre d'équerre dans ma maison avec mes enfants. J'ai fait des prises de sang pour montrer que j'étais plus du tout dans les études. Et justement, derrière, on nous met des obligations de soins et de formation professionnelle, alors qu'on n'est même pas sorti dans les démarches psychologiques, en fait, de tout ce qu'on a à réapprendre dans l'avenir.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que le bracelet électronique, c'est pas les vacances, mais c'est presque ça, on est chez soi, on a moins de contraintes qu'en prison? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
Ben, de toute façon, je pense déjà dans ces deux catégories-là, il y a vraiment les gens qui sont anti-judiciaires, anti-délinquance. Donc pour eux, c'est bien fait pour nous. Limite qu'on soit en prison ou en bracelet, c'est pareil. Qu'on morfle et qu'on, à la limite qu'on se plaigne pas. Puis il y a les autres gens où ils savent pas ce que c'est la prison, ils sont pas trop dans le jugement, mais bon, ils disent pour notre bien, nous, on est mieux sous bracelet électronique qu'en prison. Je pense qu'il y a vraiment les deux catégories de personnes là. Bah, je vois, moi, par exemple, ma maman n'est pas dans le dans l'optique c'est bien fait pour toi, mais elle me dit c'est mieux que la prison. Après, c'est sûr, quand elle voit mes contraintes d'extérieur et mes contraintes d'horaire, bien sûr, elle sait que c'est dur, qu'on nous met toujours sur... qu'on nous met à bout, mais voilà, elle va toujours quand même le défendre dans le truc en disant c'est mieux que d'être en prison, surtout avec des enfants.
Et est-ce que, en plus de ça, le contexte du Covid, des couvre-feux, d'un confinement qui approche à grands pas et qui peut-être qu'à l'heure de l'émission, on sera sous confinement, je ne sais pas. Est-ce que ça, en plus de ça, ça ajoute du stress et à ton organisation et à...
Moi, c'est tellement méchant, mais je me dis au final, on va être tous pareils. Parce que moi, au final, le confinement, ça ne changera rien à ma vie. Donc, injustement ou égoïstement, je me dirais tant mieux, parce que déjà, c'est moins le stress pour l'école, pour les enfants. On sera tous à la même enseigne.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Midi au Mitard. En tout cas, Lucie, on te souhaite plein de courage pour la suite.
On est tous comme, on est plein comme ça, et courage à tout le monde. Et. Voilà, on a moyen d'avancer, on nous fera, je pense qu'il y aura de toute façon toujours des lois qui nous mettront des bâtons dans les roues, mais voilà, si on a la volonté, je pense qu'on peut avancer.
Il n'existe pas de peine miracle dès lors qu'il s'agit de restreindre ou de priver une personne de sa liberté. Malgré le développement du milieu ouvert, encore timide, et l'intention du législateur de donner plus de place à la réinsertion sur le terrain, la situation reste inchangée et précaire. D'après des chiffres datant de 2016, le budget alloué aux services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc ceux qui assurent le suivi des condamnés, représente 1,9% des dépenses totales. L'objectif semble rester le même, sur le plan politique, celui d'affirmer une répression pénale plus forte et omnisciente. En effet, ces mesures alternatives à la détention ne constituent pas moins une véritable sanction. Elles s'exécutent sous le contrôle d'un juge d'application des peines, assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et contraignent la personne condamnée à un certain nombre d'obligations. En cas de non-respect de ces dernières, l'incarcération peut être ordonnée. Le Génépi déplore qu'une confusion soit entretenue entre l'aménagement d'une peine et sa non-exécution, confusion freinant ainsi le développement des aménagements de peine. Aussi, il est important qu'il soit reconnu qu'une peine aménagée est avant tout une peine. Gwenola Ricordo est sociologue et abolitionniste carcérale et pénale depuis plus de 20 ans. Vous l'avez sans doute entendu dans notre émission à propos des femmes et de la prison. À quoi pourrait ressembler un monde sans prison ? Nous lui avons posé la question. Je vous laisse écouter son analyse. Et donc, je vais te poser la question fatidique. Un monde sans prison est-il possible ? Et si oui, à quoi ressemblerait-il d'après toi ?
Alors oui, je pense que c'est tout à fait imaginable, un monde sans prison, et que c'est certainement vers cela que l'on va. Après, imaginer ce à quoi ça va ressembler, c'est vraiment une autre question. Et c'est pas forcément le monde sans prison que les abolitionnistes espèrent, en ce sens que moi je crois assez fortement que la prison va devenir de fait obsolète, pour reprendre l'expression d'Angela Davis, et que les innovations technologiques vont rendre la prison extrêmement coûteuse, peu acceptable socialement, et que donc dans les décennies à venir, on risque d'avoir finalement une institution qui va perdre de son ampleur, et puis au fur et à mesure un remplacement des peines d'enfermement, d'incarcération par l'usage de nouvelles technologies, alors la plus connue étant celle du bracelet électronique, mais qui risque d'être très vite dépassée par de nouvelles technologies qui commencent à poindre le bout de leur nez, notamment aux États-Unis, avec des logiciels de reconnaissance faciale installés sur les téléphones portables des personnes condamnées, qui permettent de traquer vraiment leur mouvement, des systèmes de puces, etc.
On va vers l'extension en fait de murs des murs de la prison jusqu'à toute la société en fait, dans une société de surveillance assez généralisée, beaucoup plus inquiétante qu'il n'y paraît quoi.
Exactement. Parce que en plus, ces technologies sont aujourd'hui perçues comme étant d'une certaine manière plus acceptables.
Plus humaines.
Voilà, plus humaines. Parce que on les utilise aussi dans d'autres contextes. Hein, donc, on a une sorte de familiarité avec ces technologies. Et du coup, qu'elles soient utilisées de manière punitive à l'égard de certaines personnes, hein, peut se faire assez facilement. Hein, c'est juste une extension de leur usage.
Et on va les banaliser finalement, puisque s'il y a un gros tabou et autour de la prison, et si c'est un vrai choc de savoir quelqu'un en prison, en fait, le bracelet électronique, ça permet de, ça se voit quasiment pas. Une puce, c'est pareil.
Surtout que là, le bracelet électronique, en fait, on est au tout début de ce que cela signifie. Donc, il va y avoir, la technologie du bracelet électronique va aussi, à un moment donné, devenir obsolète avec, il y a déjà des peines de ce type-là qui sont prononcées aux États-Unis, puis c'est en train d'arriver en France, hein, mais des technologies, par exemple, qui permettent la reconnaissance faciale d'un conducteur de véhicule, donc qui lui permet ou l'empêche de démarrer son véhicule, des tests d'alcoolémie ou d'usage de produits stupéfiants qui sont liés au véhicule lui-même, des possibilités d'avoir des algorithmes placés sur les téléphones qui appellent de manière aléatoire ou selon en fait certaines attentes du programme de surveillance, couplés à de la reconnaissance faciale, à de la cartographie, donc qui permettent de positionner une personne à un moment donné, de savoir exactement quel type d'activité cette personne est en train de faire, et donc des formes de surveillance beaucoup plus subtiles que le sont les bracelets électroniques aujourd'hui. Donc moi, c'est malheureusement plutôt comme ça que je pense que l'abolition de la prison va avoir lieu, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important dans les mouvements abolitionnistes de prendre cette hypothèse très au sérieux et donc de pas simplement mettre la focale sur l'abolition de la prison elle-même, mais bien l'abolition des peines, hein, et de toutes les formes de pénalités qui vont pouvoir nous être proposées comme des alternatives à l'incarcération.
Et alors, est-ce que dans ce monde-là, un monde sans peine, notre système judiciaire et notre code pénal seraient-ils obsolètes eux aussi et seraient amenés à être repensés ?
Oui, quand on parle d'abolition des peines, on s'attaque de façon mécanique au droit pénal et au système pénal. Parce que le but, l'objet du système pénal, c'est de distribuer des peines, hein, et donc de répondre à ce que... à des infractions, donc par des peines. Et si on imagine un monde sans recours à la pénalité, sans recours au système pénal, il faut donc imaginer un autre système pour rendre justice, hein, pour répondre aux besoins des victimes et aussi répondre aux conditions sociales qui ont rendu possible certains faits et répondre aux torts qui ont été subis par les victimes. La justice transformative, c'est une façon de rendre justice, développée, pensée, on peut dire, à partir des années 2000, même si on peut dire que la conceptualisation, elle précède évidemment cette mise en pratique d'une dizaine d'années. Et c'est l'idée, ça part de l'idée que de toute façon, le système pénal répond très mal aux besoins de sécurité, aux besoins de reconnaissance, aux besoins de donner du sens, notamment des victimes, et en particulier de certaines victimes. Hein. Donc c'est pour ça que c'est né dans des communautés généralement marginalisées, que ce soit des personnes qui sont issues de certaines minorités raciales, qui sont dépourvues de titres valables de séjour, des travailleurs et travailleuses du sexe, des communautés LGBT qui, lorsqu'elles sont victimisées, lorsqu'elles sont donc victimes d'actes, hein, quelle que soit leur nature, de fait, ne peuvent pas avoir recours au système pénal ou alors se mettre elles-mêmes ou leurs proches en danger. Hein. Par exemple, si vous êtes dépourvu de titre valide de séjour, vous pouvez toujours aller porter plainte, mais est-ce que vous ne risquez pas davantage d'être... je cherche le terme, d'être déporté, d'être renvoyé du pays dans lequel vous vivez. Est-ce que vous risquez pas une criminalisation de vos proches, etc. Et donc, c'est face à ces difficultés-là, cette difficulté d'obtenir justice par le système pénal, que ces communautés se sont organisées pour donc mettre en place ce qu'on appelle la justice transformative. Et donc, cette idée qui est au cœur de la justice transformative, de transformation. Et donc, l'idée qu'il ne s'agit pas simplement, et ce qui est déjà beaucoup, hein, de répondre aux besoins des victimes, de répondre aussi aux besoins des auteurs, parce que les auteurs ont aussi des besoins pour pouvoir changer, pour pouvoir modifier leur comportement, pour pouvoir réparer dans la mesure du possible les torts qu'ils ont causés, et puis surtout comment transformer les communautés pour imposer de nouvelles valeurs, de nouveaux comportements qui permettent de prévenir, de mieux répondre aux préjudices qui peuvent être commis par certaines personnes.
Dans une époque où le confinement et la surveillance ne concernent plus seulement les prisonniers, mais toute la population, il est important de se poser ces questions. Jusqu'où nous sommes prêts à laisser se banaliser un contrôle social de plus en plus intrusif ? En conclusion de ce sujet, je vous laisse sur cette phrase prononcée par le philosophe Gilles Deleuze, qui prévenait déjà dans les années 90 avec cette phrase déstabilisante « Face aux formes prochaines de contrôle incessant en milieu ouvert, il se peut que les plus durs enfermements nous paraissent appartenir à un passé délicieux et bienveillant ».
Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je t'assure la sauvage va faire le tour de la ville. J'ai vu des meufs énervées casser toute la rue. Et des petits hauts comme ça qui te va à l'âge et t'écoutes ce que ça dit. Car à l'école on s'en fout ce que t'as dit. Faut te bouger, t'es pas au bout de ta vie. Tu voudrais pas finir comme ce plouc raciste. On veut pas de boss, pas de vie de chameau. L'ordre et la loi ça fait mal comme un tir de flashball. Ils épuisent le magot. Une pensée aux frères en ont pris dans le cachot. Non faut pas dire que c'est du père d'avance. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Non faut pas dire que c'est du père d'avance. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Comme ma maman, je suis pas capitaine. J'ai moins l'argent aux nanas que je câline la nuit. C'est pas marrant de voir un ami partir dans le quart de ses stars à une manif, ah oui. Ouais dans cet état on s'en fout de ta vie. Une entreprise vaut le double de ta vie. Ouais dans cet état on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, baka, baka, baka. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Baka, baka, baka. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif, bitches. Poutine, gars comme Leonidas, bitches. Juste comme Poutine, gars comme Leonidas, bitches. Bitches, 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 bitches,
Midi au Mitard, l'émission qui écarte les barreaux.
Sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
C'était jour de manif du rappeur Yuri. Nous aussi, on s'est levé comme un jour de manif aujourd'hui dans Midi au Mitard, et c'est tout naturellement sur les ondes que nous choisissons de vous partager nos convictions. En parlant de ça, nous poursuivons avec Manon, qui vous propose une chronique pleine de militantisme avec une célèbre combattante pour les libertés, Angela Davis.
Oui, aujourd'hui, on va parler d'un essai abolitionniste écrit par Angela Davis en 2003, qui s'appelle « La prison est-elle obsolète ?». Dans ce texte, elle déconstruit le système carcéral américain. Elle le décortique pour nous montrer à quel point il est lié à des questions de race, des questions de genre, mais aussi de classe. Il faut savoir qu'à l'époque, plus de 2 millions d'Américains et Américaines étaient derrière les barreaux, soit 10 fois plus que dans les années 60. Selon elle, le monde carcéral, ou plutôt le complexe carcéro-industriel, selon un terme qu'elle reprend, est dominé par des entreprises qui tirent profit des communautés racisées, des femmes et des pauvres. Pour Angela Davis, la solution, ce n'est pas de réformer, c'est d'ouvrir de nouveaux terrains pour la justice afin d'imaginer un monde sans prison. Pour commencer, elle nous explique que souvent perçu comme un élément naturel et constitutif de nos sociétés. C'est donc dans cette logique que dans les années 80, le gouvernement américain entame un grand programme de construction des prisons. Des prisons dont les détenus sont en grande majorité latino et afro-américains. Il faut savoir qu'en 2002, dans les prisons californiennes, on comptait seulement 30% de blancs. Ces établissements se sont construits en masse, sur une période restreinte et avec le consentement implicite du grand public. La prison, selon Angela Davis, est à la fois présente et absente de nos vies. Elle nous semble indispensable, mais on n'a pas envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. En fait, la réalité de ce monde reste abstraite, et son existence nous permet de ne pas penser aux vrais problèmes qui affectent les communautés dont sont issues les personnes incarcérées. Pourtant, ce monde nous semble familier, car il est représenté dans les films, dans les séries, et c'est même devenu un genre en soi. Alors, difficile de s'imaginer un monde sans prison. Pour Angela Davis, la prison, c'est un trou noir. Et pour elle, une vision réformatrice ne permet pas d'entrevoir un horizon au-delà de la prison. Pour elle, il faut aller plus loin. Ensuite, l'auteur fait le parallèle avec le système esclavagiste. Celles et ceux qui l'ont dénoncé à l'époque pendant laquelle il était en application ont été traités d'extrémistes. Le lynchage et la ségrégation s'inscrivent dans cette continuité. À l'époque, on n'aurait pas pu prévoir leur effondrement, et pourtant aujourd'hui, ça nous semble absolument invraisemblable. Pour Angela Davis, le lien entre esclavage, ségrégation et prison, c'est le racisme institutionnalisé. Elle nous dit « Si nous sommes déjà convaincus que le racisme ne devrait pas définir l'avenir de notre planète, et si nous pouvons démontrer avec succès que les prisons sont des institutions racistes, il devrait alors nous être possible d'aborder sérieusement la question de leur obsolescence. » L'historien Adam J. Hirsch revient sur ce lien avec l'esclavage, en faisant le lien avec ce qu'il se passait dans le sud des États-Unis à l'époque. Premièrement, soumission du sujet à la volonté d'autrui. Ensuite, isolation de ce sujet de la population en le confinement dans un lieu fixe. Et pour finir, travail forcé et moindre contrepartie par rapport aux travailleurs libres. Angela Davis nous explique qu'aussitôt après l'abolition, un système de justice criminelle a été pensé pour limiter la période des esclaves affranchis. Pour limiter, pardon, la liberté des esclaves affranchis. Elle nous parle du système de louage des condamnés. Le louage, c'est le fait de louer un détenu avec des conditions de prix et de durée pour travailler, par exemple, au sein de plantations ou de construire des voies ferrées. Le louage est considéré par beaucoup comme une réincarnation de l'esclavage. À noter ce chiffre parlant qui montre le caractère raciste de l'institution carcérale. Angela Davis nous parle des travaux de l'historienne américaine Marie-Hélène Curtin, qui a étudié les détenus de l'Alabama pendant les décennies suivant l'abolition de l'esclavage. Avant l'affranchissement des 400 000 esclaves noirs de cet État, 99% de la population carcérale était blanche. En un court laps de temps, les chiffres ont été complètement inversés et les Noirs se mirent à représenter la majorité des condamnés de cet État. D'ailleurs, cette chercheuse fait aussi le lien entre le louage carcéral et la privatisation qui s'opère au sein des prisons aujourd'hui. En effet, si on regarde de plus près, il s'agit d'entreprises dont les profits sont conditionnés par les peines. Elles disposent d'un stock de détenus qui pourront travailler pendant une peine d'une durée définie. Le châtiment est alors marchandisé, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'Angela Davis, dans cet essai, nous parle beaucoup d'une industrie du châtiment. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, on va faire un bond en arrière. Au XVIIIe et XIXe siècle, quand la prison était considérée comme certains comme émancipatrice, comme un lieu où l'âme peut s'épanouir. Les réformistes religieux, Quakers, considéraient à l'époque que l'emprisonnement était une sorte de purgatoire, qui permettait d'être confronté avec soi-même, dans le silence, la solitude. Pour eux, il s'agissait même d'une voie vers un éveil spirituel. Pourtant, vous le savez sûrement, l'isolement entraîne un risque de démence. L'écrivain Charles Dickens l'a même qualifié de « dislocation lente et journalière des arcanes du cerveau » dans un de ses écrits. On peut bien sûr faire le parallèle avec le modèle des prisons Supermax, lancé aux USA dans les années 80. À l'époque et même aujourd'hui, certains détenus sont soumis au confinement solitaire, car considérés comme particulièrement dangereux. Sauf que même quand on est considéré comme particulièrement dangereux, on reste susceptible de développer des dommages psychologiques importants face à l'isolement. Ça n'épargne personne. Pour Angela Davis, il est aussi très important d'expliquer comment le genre structure le système carcéral. Pour elle, il faut faire attention à ne pas reléguer les femmes au second plan dans le traitement des questions relatives à la prison, ce qui est parfois le cas même chez les plus militants. On le sait, et on en a parlé de nombreuses fois à l'antenne de Midi au Mitard, les femmes incarcérées sont parfois considérées comme anormales, comme ayant failli aux normes que leur impose leur sexe, à la différence des hommes. Angela Davis nous parle par ailleurs d'une militante communiste, Elizabeth Gurley, qui a été emprisonnée pendant 2 ans à la moitié du siècle dernier. Elle nous dit qu'à l'époque, une réinsertion était envisageable pour les femmes détenues si elles adoptaient des usages féminins corrects, c'est-à-dire apprendre à devenir de meilleures mères et épouses pour les blanches et apprendre à être de bonnes domestiques pour les femmes noires. L'importante criminalisation des communautés noires et latinos aux États-Unis n'épargne bien sûr pas les femmes. C'est un système qui est donc à la fois profondément genré et raciste. Il faut aussi bien sûr parler du sujet des violences sexuelles à l'intérieur des prisons pour femmes, mise en lumière notamment par les travaux d'ONG comme Human Rights Watch. Il s'agit d'une forme de violence supplémentaire par rapport au public masculin. Angela Davis nous parle d'ailleurs d'une institutionnalisation souterraine des abus sexuels. N'oublions pas que la fouille des cavités intimes, qu'on a tendance à normaliser, peut être vécue comme une agression sexuelle. Maintenant, c'est le moment de parler du complexe carcéro-industriel que j'ai évoqué en introduction. C'est un terme qui revient énormément dans cet essai. Il s'agit d'un réseau tissé entre les entreprises, le gouvernement, les communautés pénitentiaires et les médias liés au monde carcéral. On peut faire le parallèle avec le concept de complexe militaro-industriel, popularisé par le président Eisenhower au début des années 60, quand il dénonçait à l'époque l'alliance entre le monde militaire et le monde de l'entreprise. Ici, dans le cas de la prison, il s'agit, selon Angela Davis, de tirer un bénéfice de la destruction sociale des communautés les plus pauvres et des personnes racisées. Je vais vous raconter quelque chose d'absolument accablant qui s'est produit dans les années 60, justement. Des expériences médicales étaient à l'époque menées sur les détenus de la prison Hummelsburg, comme pharmaceutique. Le médecin en charge de cela, qui s'appelait Klingman, est allé jusqu'à qualifier les prisonniers de « colonies anthropoïdes globalement en bonne santé » qui évoluent dans des conditions parfaitement contrôlées. Des propos immondes, donc, qui réduisent les détenus au statut de surplus humain. Ces faits se sont produits il y a un peu plus de 50 ans. Ils ont été autorisés, et aujourd'hui, cela apparaît a priori invraisemblable à tout le monde. La tendance à la privatisation des prisons, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la présence des entreprises à l'intérieur de la prison, par le biais du salariat des détenus, où ils sont considérés comme un stock à réapprovisionner, selon Angela Davis. Pas de grève, pas de syndicalisation, pas de sécurité sociale aux États-Unis, pas d'indemnité à verser. C'est une main-d'œuvre précieuse pour ces entreprises. La sphère privée qui pénètre le monde carcéral, c'est aussi la vente de biens et de services comme la nourriture ou les moyens de communication. Mais c'est également l'expansion des établissements privés aux États-Unis. En France, une entreprise est très impliquée dans l'économie de la prison. C'est Sodexo, qui a d'ailleurs une activité bien au-delà de nos frontières. Cette multinationale cotée en bourse est bien insérée dans les prisons françaises depuis les années 80. À présent, et pour terminer, il est temps de s'intéresser aux alternatives abolitionnistes proposées par Angela Davis dans son livre. L'auteur cite le travail d'Arthur Wasco, un activiste politique américain qui pense qu'il s'agit de construire une société qui n'ait pas besoin de prison, basée sur la redistribution juste du pouvoir et des richesses, afin de stopper les crimes liés à la possession, mais aussi de bâtir un sens de la communauté capable de soutenir, réintégrer et réhabiliter ceux qui sont considérés comme criminels. Aujourd'hui, notre système pénal repose sur l'emprisonnement, qui est considéré comme une norme, mais il faut déconstruire le lien conceptuel qui est fait entre sanctions et délits. Si on veut trouver une alternative aux prisons, il ne faut pas chercher une méthode punitive qui remplirait les mêmes fonctions que l'enfermement. Ce n'est pas possible. Il faudrait imaginer un système dans lequel le complexe carcéro-industriel serait démantelé, dans lequel le châtiment ne sera plus source de profit capitaliste. Dans ce système alternatif, la classe, la couleur et le genre ne seraient pas déterminants dans le processus de châtiment. Angela Davis insiste sur la dimension raciste du châtiment, liée notamment aux disparités dans l'intensité de la surveillance policière entre les différentes communautés, ce que l'on connaît aussi bien en France. Des solutions concrètes, Angela Davis en identifie plusieurs. Démilitarisation des écoles, structure de répression surtout dans les écoles avec communautés de couleur et paupérisées, revitalisation de l'éducation à tous les niveaux, mise en place d'un système de santé dispensant des soins médicaux et psychiatriques gratuits, instauration d'un système judiciaire basé sur la réparation et la réconciliation plutôt que sur la rétribution et la vengeance. Ça pourrait aussi passer par une dépénalisation de la drogue, accompagnée par des programmes gratuits de proximité auprès des communautés qui en ont besoin, mais aussi par la dépénalisation du travail du sexe, ou encore la décriminalisation des sans-papiers. Le but de cette chronique et de cette dernière partie, ce n'est pas de vous faire un inventaire à l'après-Vert, mais de vous montrer que tout cela pourrait contribuer à une nette chute du nombre de crimes et de délits commis, et qu'il s'agit de solutions concrètes et réalisables, et non d'une utopie.
Merci beaucoup Manon pour cette chronique littéraire et militante, et on n'en a pas fini encore avec toi, on te retrouve un peu plus tard dans l'émission. Et maintenant, un monde sans prison est-il possible? C'est la question que l'on ose poser aujourd'hui dans Midi au Mitard sur Prune. Avec Mathieu, nous allons parler architecture et science-fiction, avec Deanna Van Buren, une architecte américaine qui conçoit des lieux de justice restaurative en lieu et place des prisons, et de science-fiction, comme je vous le disais, avec le roman Glass House, un livre de Charles Stross, qui interroge la notion physique de la prison. C'est à ton tour, Mathieu.
Avant de commencer cette chronique, je voulais déjà vous dire que je connais de Deanna Van Buren seulement ce que j'ai pu lire depuis le début de la préparation de cette émission. Et si je voulais vous en parler, c'est parce que sa conférence, qui est disponible sur Internet gratuitement sur TED, s'intitule « What a world without jail could look like ». Désolé pour mon anglais. On peut difficilement faire plus raccord avec le thème de ce mois-ci. Deanna Van Buren, elle croit en la justice réparatrice, qui consiste à considérer les prisonniers comme des patients qui doivent disposer d'un espace safe pour guérir leurs blessures. Elle compare d'ailleurs l'emprisonnement à la conséquence d'une rupture relationnelle entre des individus et la société. Du mal a été fait, et subi la plupart du temps, elle ne manque pas de le souligner dans sa conférence, et il faut donc le réparer. Pour ça, elle a mis en place des espaces de méditation. Elle cherche à construire des centres de justice restaurative, en lieu et place des prisons. Alors, c'est vraiment joli. Il y a des espaces de discussion, de restauration, des soins à la personne, des jardins communautaires. C'est très beau, ça donne presque envie. Mais on oublierait presque que c'est le système judiciaire qui pulpera ce lieu, en condamnant des personnes à y vivre. Parler de rupture relationnelle pour qualifier l'emprisonnement serait entendable si la société dans laquelle nous vivons n'était pas construite sur des rapports de domination. Ce n'est évidemment pas le cas. Et si une majorité de prisonniers et prisonnières sont des personnes racisées, c'est évidemment parce que le racisme systémique influe sur le système judiciaire aux États-Unis comme ailleurs, par exemple. C'est intéressant de voir que Deanna Van Buren est une femme noire, parfaitement consciente de ses biais, mais qu'elle semble croire quand même à ces espaces de reconstruction pour remplacer la prison. Et pour moi, c'est bien là le problème. Elle ne propose pas de supprimer la prison, elle propose de supprimer les lieux que nous appelons prison pour les remplacer. Ce n'est pas du tout la même chose, et à aucun moment le système judiciaire en tant que tel n'est remis en cause par son essai. Pire encore, elle propose un système d'économie baptisé « économie réparatrice » qui vise à remettre les individus sur les bons rails de l'entreprise. On retrouve ce biais qu'on évoquait un peu dans les premières émissions de l'année et de ce passage obligé par le monde du capital pour se réinsérer. On ne se réinsère cependant pas dans n'importe quelle société, on se réintègre dans une société capitaliste. Et c'est une société qui est malade, ce n'est plus à prouver. Alors de fait, considérer les prisonniers comme des gens à guérir, est-ce que ce n'est pas un peu dénué de sens ? Cela revient finalement à inverser les rôles dans de nombreux cas, et je pense notamment aux nombreuses femmes qui se retrouvent emprisonnées pour homicide envers un conjoint violent, ou encore les personnes incarcérées car le système ne leur laisse d'autre choix que le crime pour subsister. Et même si on peut comprendre ce rapport de relation à la règle dans une société, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer un monde où le principe même d'emprisonnement n'existerait pas ? Pour reprendre l'analogie relationnelle de Deanna Van Buren, un manquement aux règles de relation ne pourrait-il pas tout simplement se régler par une sorte de dialogue sans processus d'enfermement ? Et même ainsi, pourrait-on parler de monde sans prison ? C'est en me penchant sur cette question que j'ai été aussi amené à lire Glass House, un roman de Charles Stross, écrit en 2006. C'est l'histoire de Robin, un homme dont la mémoire a été effacée, et qui se voit contraint de participer à un programme de guérison où il va revivre la vie d'une femme depuis les années 50 jusqu'en 2050. En récoltant des points selon ses choix, des points qui lui permettront plus tard d'être considéré ou non comme guéri aux yeux de la société, sachant que ces points sont distribués selon les comportements qu'il va adopter, des comportements qui doivent évidemment correspondre aux normes sociétales. Si je vous parle de ce livre, c'est qu'il rejoint les interrogations que j'ai eues en écoutant Deanna Van Buren. La prison se définit-elle comme un lieu ? Et si on démolissait tous les bâtiments, le concept de prison s'en irait-il pour autant? Je crois pour ma part que la réponse est non pour l'instant, tant que la société n'aura pas changé de manière fondamentale. La prison est la réponse brutale de notre système quand nous manquons à ses règles. À l'heure où le monde entier se transforme en espace clos au contact de la pandémie, il paraît urgent d'interroger notre conception de la liberté et la notion de justice, qui ne peut avoir de sens qu'à travers le prisme d'un monde où les rapports de domination n'existent plus. Je vous souhaite une bonne réflexion et à la prochaine émission.
Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique mêlant science-fiction et architecture avec, je le rappelle, le roman Glass House de Charles Stross que l'on vous recommande de découvrir, ainsi que les travaux de l'architecte Diana Van Buren. Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique mêlant science-fiction et architecture avec, je le rappelle, le roman Glass House de Charles Stross que l'on vous recommande de découvrir, ainsi que les travaux de l'architecte Diana Van Buren. Avant de vous quitter, Manon tenait à vous proposer un autre texte repéré dans Paroles de détenus. Je te redonne le micro, Manon.
Maintenant, on va parler d'un sujet difficile qui est malheureusement très présent entre les murs. Je veux parler du suicide en détention. En 2018, 131 personnes s'y sont donné la mort en France. Pour les années suivantes, c'est difficile de trouver une information unique. Mais le travail du collectif Les Morts de la Prison nous renseigne sur la gravité de la situation. Ce collectif rend public chaque année le nom des personnes s'étant donné la mort à l'intérieur des prisons françaises. Le suicide d'un homme, au Beaumet, à l'été 2020, qui a amené Dupont-Moretti à lancer une mission d'inspection pour la prévention des suicides, a alerté l'opinion publique sur l'ampleur du problème à quelques mois de la fin de l'année, en pleine pandémie. En août 2020 donc, 82 personnes s'étaient donné la mort dans les prisons françaises. Selon l'OIP, on se suicide 6 fois plus en prison qu'à l'extérieur. Donc pour parler de ce sujet difficile à aborder, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un texte collectif écrit à la Maison Centrale de Poissy il y a 20 ans et publié à l'époque dans les pages du Monde. Et qu'on retrouve bien sûr, comme tu l'as dit Laurie, dans le recueil « Paroles de détenus ». Donc je souhaite juste mettre un trigger warning avant de commencer, car le texte comporte des passages qui peuvent être choquants. Où que tu sois, c'est à toi que j'écris. Toi qui es entré dans ma cellule un lundi soir de février. Tu avais l'air de ceux qui cherchent leur pitance depuis trop longtemps. Au fond de leurs orbites creusées par l'insomnie de la garde à vue, tes yeux témoignaient de ton désarroi et de tes peurs. Avec tes guenilles, même un clochard t'aurait donné une aumône de quelques francs. Soulagé de n'être plus entre les mains de la police, après un long silence, tu t'es mis à parler de tout et de rien durant des heures. Comprenant ton désir de vider ton sac, je t'ai écouté. Plus tard, nous avons partagé le pain et l'eau. Nous n'étions pas issus du même monde. Tu venais de la rue, j'étais sortie d'un douillet cocon bourgeois. Nous n'avions en commun que le statut de détenu. Pourtant, nous nous comprenions au travers de silences et des rires que nous avons eus durant 5 jours. Nous commencions à nous tolérer, voire même à nous apprécier. De tes affaires de drogue, je me fichais, comme tu n'avais probablement rien à faire de mon crime. Nous voulions simplement redevenir humains. Au 6e jour, nous nous sommes rendus ensemble au parloir. Toi, pour le premier avec ta femme depuis ton arrestation. Moi, pour un autre avec ma compagne et mes enfants. J'en suis revenu comme à chaque fois, heureux d'avoir pu recharger mes batteries affectives. Mais toi, tu pleurais. Je sentais que tu avais besoin de solitude. Nous avons partagé la gamelle en silence, puis, allongé sur mon lit, j'ai regardé le film du soir, alors que sur ta couche au-dessus de la mienne, j'entendais tes sanglots. J'ai fini par sombrer dans un profond sommeil en rêvant de ma femme et de mes enfants. Tête. À minuit passé, tes gémissements m'ont réveillé. Dans la pénombre de la cellule, au mur de laquelle se projetait l'ombre des barreaux et du grillage, tu as fini par m'appeler au secours dans un râle faiblissant. Encore comateux de mon sommeil interrompu, je me suis levée et allumée pour découvrir avec horreur le carnage. Au travers du matelas de mousse, ton sang avait fini par filtrer et me couler dessus. Par réflexe, plus que par ressentiment, je t'ai engueulé, traité d'abruti. J'ai tapé de toutes mes forces à coups de tabouret dans la porte et hurlé à m'en éclater les poumons pour appeler de l'aide. Mais le temps que les secours arrivent, de l'autre bout de la maison d'arrêt, tu as paniqué en voyant ta vie s'écouler. Je me souviendrai toujours de l'image de cette lame de rasoir sur la table et de ce morceau d'étoffe rougie qui t'avait servi de garrot. Tu as voulu te lever dans un ultime sursaut vital. Ton cœur n'avait plus assez de carburant. Avant que la petite flamme de vie qui te restait ne t'éteigne, tu m'as soufflé « Dis-lui que je l'aime et que je lui demande pardon. » Et le rideau de fin est tombé. La liberté que tu avais eu tant peur de perdre est revenue te chercher par une froide nuit d'hiver. Personne ne connaîtra jamais les raisons de ton acte, mais sois tranquille. Avec toi, l'action de la justice s'est éteinte, comme il est désormais écrit au bas de ton dossier classé sans suite.
Merci beaucoup Manon pour ce partage. Ce texte est à retrouver dans le recueil « Paroles de détenus » ainsi que dans les pages du Monde. Donc.
Midi au Mitard, la prison en long, en large et en travers, sur les ondes de Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
Et c'est déjà la fin de Midi au Mitard. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Lucie pour son témoignage, à Gwenola Ricordo pour son analyse et big up à toute l'équipe de Midi au Mitard, toujours vent debout et toujours prêt à vous proposer une autre vision du monde malgré le contexte de contraintes de ces derniers mois. On ne se laisse pas abattre et on vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Ce sera le 7 mars à midi comme d'habitude. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur prune.net et sur notre page Facebook Midi au Mitard. À très vite et bon dimanche sur les ondes de Prune.